Chapitre 9. Nous avons beaucoup parlé de Racan et seulement prononcé le nom de Malherbe, son maître, Malherbe, l'auteur de l'ode à Dupérier qui commence par ces mots « Ta douleur, Dupérier, sera donc éternelle ?» et dans laquelle on trouve cette strophe « Elle était de ce monde où les plus belles choses ont le pire destin. Et, rose, elle a vécu ce que vivent les roses, l'espace d'un matin. » Malherbe joue un trop grand rôle dans cette pléiade de poètes qui entourent Louis XIII et le cardinal pour que nous ne fassions pas à son endroit ce que nous avons fait, par exemple, à l'endroit de son élève Racan. Malherbe est né à Caen, environ vers l'an 1555. Il était de la maison de Malherbe Saint-Aignan, déjà existante lors de la conquête de l'Angleterre par le duc Guillaume. La maison continua de grandir en Angleterre, mais tomba en France, et cela, au point que, lors de la naissance de son fils, le père de Malherbe était tout simplement assesseur à Caen. C'était le beau temps de la religion réformée. Le bonhomme se fit calviniste. Malherbe avait 17 ans et fut si désespéré de ce changement de religion de son père qu'il quitta son pays et suivit le grand prieur en Provence. Monsieur le grand prieur était, comme on sait, bâtard de Henri II et frère de Madame d'Angoulême, veuve de François, duc de Montmorency. Ce fut ce même grand prieur de Provence qui fut tué par un aventurier nommé Altoviti. Après avoir été corsaire, cet Altoviti était devenu capitaine de galère. Il avait enlevé une fille de qualité, la belle Rieu de Châteauneuf, dont Henri III avait été si fort amoureux qu'il avait pensé l'épouser. Henri III le payait comme espion près du grand prieur. Le grand prieur le sut, alla chez Altoviti et, à la suite de l'altercation qui s'éleva entre eux, le frappa d'un coup d'épée. Le blessé riposta par un coup de poignard, dont le grand prieur mourut le 2 juin 1586. Au cri de celui-ci, les gardes du grand prieur accoururent et massacrèrent Altoviti. Revenons à Malherbe. Au moment de la Ligue, il prit parti contre Henri IV. Lui et un nommé Larocque, qui était attaché à la reine Marguerite, tombèrent un jour, avec une cinquantaine de partisans qu'ils commandaient, sur M. de Sully, qu'ils poussèrent si vertement devant eux que celui-ci n'oublia jamais l'algarade. Malherbe prétendait que c'était à cause de cette imprudence qu'il n'avait rien pu obtenir de considérable de Henri IV. Malherbe était très brave. Dans un partage de butin, un capitaine espagnol l'ayant insulté, Malherbe l'appela en duel et, à la première botte, lui passa son épée au beau travers du corps. Malherbe était très franc, plus que franc, brutal, quinteux même parfois. Un jour, monsieur le grand prieur, qui faisait de fort méchants vers, dit à Dupérier, cet ami de Malherbe qu'une ode de Malherbe a immortalisé, « Mon cher monsieur Dupérier, voici un sonnet. Montrez-le à Malherbe comme étant de vous. » car si je lui dis qu'il est de moi, il est condamné d'avance. » En présence du grand prieur, Dupérier tire le sonnet de sa poche et le présente à Malherbe comme de lui, en le priant de lui en dire son opinion. Malherbe lut le sonnet en faisant la moue. Puis le sonnet lut. « Mon cher Dupérier, dit-il, voici un sonnet aussi mauvais que si c'eût été monsieur le grand prieur qui l'eût fait. » Monsieur le grand prieur ne demanda point son reste, mais n'en fit pas plus mauvaise mine à Malherbe. Voici encore un exemple de sa réaction à l'endroit des devoirs de la simple politesse. Un jour, Régnier, le satirique, le conduisit chez son oncle Desportes, l'auteur de la charmante Villanelle. « Rosette, pour un peu d'absence, votre cœur, vous avez changé. » C'était pour dîner. Régnier et Malherbe, retardés par je ne sais quel incident, arrivaient un peu tard et la table, en les attendant, était servie. Desportes les reçut avec toutes sortes de courtoisies et, comme ses psaumes venaient d'être imprimés, il voulut monter à son cabinet pour y prendre un exemplaire qu'il comptait offrir à Malherbe. « Oh ! Dit Malherbe, ne vous pressez pas, je les ai vus, vos psaumes, et ils peuvent attendre, tandis que votre potage, qui est peut-être bon, refroidirait en attendant. » Puis il dîna, aussi impassible que s'il venait de faire à Desportes la plus grande politesse du monde. Seulement, pendant tout le temps du dîner, il ne prononça point une parole. Au dessert, ils se séparèrent et ne se revirent jamais depuis. C'est à cette occasion, sans doute, que Régnier fit contre Malherbe la satire « Rapin, le favori d'Apollon et des Muses ». Lorsqu'il fut auprès du roi Henri IV, et nous dirons tout à l'heure comment il y arriva, Malherbe ne se gêna pas plus pour le roi qu'il ne le faisait pour les autres. Un jour, Henri IV, avec une faiblesse toute paternelle, lui montra une lettre qu'il venait de recevoir du dauphin. Malherbe la lut. « Bon, dit-il, j'avais cru jusqu'ici que Monseigneur le dauphin s'appelait Louis. » « Ainsi s'appelle-t-il, en effet, dit le roi. Eh bien alors, quel est l'âne batté qui le fait signer Loïs ?» On envoya chercher celui qui montrait à écrire au jeune prince, et c'est depuis ce temps que les dauphins et rois de France signèrent Louis et non Loïs. Aussi Malherbe prétendait-il qu'il était le véritable parrain du roi. Comme, en 1614, les États généraux se tenaient à Paris dans la salle du Petit Bourbon près du Louvre, il y eut de longs débats entre le clergé et le tiers-État. Le tiers-État voulait que l'on posât ce principe, que l'autorité spirituelle n'avait aucun droit sur la puissance temporelle du roi. Le tiers-État fut traité d'hérétique et les évêques menacèrent de se retirer en mettant la France en interdit. « Eh, eh !» dit M. de Bellegarde à Malherbe. « Savez-vous que nous risquons tous d'être excommuniés ?»« Peste, dit Malherbe, la chose ne serait point malheureuse pour vous. »« Comment cela ? Ne dit-on pas que les excommuniés deviennent noirs comme de l'encre ?»« Eh bien ?»« Eh bien, vous n'auriez plus la peine de vous teindre la barbe et les cheveux. » Les discussions philosophiques allaient de conserve et de pair à cette époque, avec les discussions politiques et religieuses. Une grande contestation avait lieu entre les gens du pays d'Adiousias, qui étaient les hommes d'au-delà de la Loire, c'est-à-dire ceux que l'on désignait sous le nom de Gascons, et ceux que l'on appelait du pays de Dieu vous conduise, c'est-à-dire de la langue d'Oïl. Il s'agissait du mot « cuiller ». Le roi et monsieur de Bellegarde, Gascons tous deux, étaient pour que l'on écrivît « cuiller »,« cuillère ». Ils disaient que le nom étant féminin, devait avoir une terminaison féminine. Les grammairiens du pays de Dieu vous conduise prétendaient au contraire que ce n'était nullement une nécessité et ils s'appuyaient sur ce point, sur ces mots « une perdrix »,« une mais »,« huche à serrer le pain »,« la mère » et autres qui, étant féminins, ont cependant une terminaison masculine. Le roi demanda à Malherbe son avis, mais celui-ci « Sire, dit-il, ce n'est point une question à présenter à un poète. »« Et pourquoi cela ?»« Parce qu'elle peut être résolue par les crocheteurs du port au foin. »« Mais enfin, répliqua le roi, si une autorité se déclarait en faveur du mot « cuillère ». » Malherbe l'interrompit. « La vôtre, par exemple ?»« Pourquoi pas ?» dit Henri IV piqué. « Apprenez, lui dit Malherbe, que vous êtes assez puissant pour conquérir un royaume, faire la paix ou la guerre, condamner à mort ou gracier un coupable, mais que vous ne l'êtes point assez pour changer un mot à la langue. » Un jour, monsieur de Bellegarde, et nous dirons tout à l'heure comment le poète dépendait de lui, un jour, monsieur de Bellegarde demandait à Malherbe quel était le plus français, de dépenser ou de dépendu. « Dépenser est plus français, répondit Malherbe. « Mais pendu et dépendu sont plus gascons. » Un autre jour, au cercle, un homme qui affichait la sévérité des mœurs faisait l'éloge de Madame de Guercheville que Henri IV, en souvenir de la belle résistance qu'elle lui avait opposée, avait faite dame d'honneur de Marie de Médicis. « Tenez, monsieur, disait le moraliste en montrant cette dame assise sur un tabouret près du fauteuil de la reine. « Voilà où mène la vertu. » « Et tenez, monsieur, répondit Malherbe, en montrant la connétable de Lesdiguières, assise sur un tabouret plus élevé que celui de Madame de Guercheville. Voilà où mène le vice. » Pendant la prison de Monsieur le Prince Henri de Bourbon, père du Grand Condé, la femme de Monsieur le Prince, cette belle Charlotte de Montmorency, pour laquelle Henri IV avait fait ses dernières folies, étant accouchée de deux enfants morts, à cause, prétendit-on à cette époque, de la grande fumée qu'il faisait dans sa chambre, un des amis de Malherbe, conseiller de province, paraissant en grande tristesse chez M. le garde des Sceaux Duvert, Malherbe lui demanda ce qu'il avait. « Oh ! S'exclama celui-ci, les gens de bien pourraient-ils avoir de la joie lorsqu'on vient de perdre deux princes du sang ?»« Eh, mon cher, répliqua Malherbe, soyez tranquille, pour ceux qui, comme vous, se soucient de servir, il y aura toujours des maîtres. » Malherbe était grand et bien fait, et d'une constitution si excellente, rapporte Talmand des Réaux, que l'on pouvait dire de lui ce que Plutarque dit d'Alexandre, que sa sueur même était parfumée. Nous avons déjà donné un aperçu de son caractère. Ce caractère perçait dans sa conversation. Il parlait peu, mais presque toujours chaque mot porté. Desportes, Berthaud et Desiveteaux s'établirent ses critiques et se mirent à épiloguer sur tout ce qu'il faisait. Lui s'en moquait, disant « S'ils ne me laissent pas tranquille, je veux, rien qu'avec leur faute de français, faire un livre plus gros que leur livre même. » Un jour, il discutait avec Yvetot. « Ah, ça !» lui demandait celui-ci. « Croyez-vous que ce soit une chose bien euphonique que de trouver dans un vers ces trois syllabes à la suite l'une de l'autre ?»« Ma, la, pla ?»« Dans quel vers ?» dit Malherbe. « Parbleu, dans celui-ci !» Enfin, cette beauté m'a la place rendue. Et vous, riposta Malherbe, croyez-vous que ce soit plus agréable de trouver dans un des vôtres para la la fla? Où donc, demanda Desiveteaux. Dans ce vers morbleu. Comparabla la fla me. Malherbe perdit sa mère en 1615. Il avait alors plus de 60 ans. La reine Marie de Médicis lui envoya un de ses gentilshommes pour lui faire en son nom des compliments de condoléance. Par ma foi, fit Malherbe, dites à sa majesté que je ne puis lui rendre sa politesse qu'en souhaitant que le roi pleure sa mère aussi vieux que je pleure la mienne. L'ambassadeur mortuaire parti, il délibéra longtemps pour savoir s'il prendrait le deuil de sa mère. « Regardez, dit-il, le gentil orphelin que je vais faire avec mes 60 ans et mes cheveux gris. » Il se décida enfin à commander ses habits de deuil. Il avait un valet auquel il donnait 20 écus de gages par an, plus, comme on dirait aujourd'hui, un feu de 10 sous par jour. Ce valet de poète, on le voit, était, relativement à l'époque, payé sur le pied d'un valet de grand seigneur. Seulement, chaque fois que le frontin manquait à quelqu'un de ses devoirs, Malherbe le faisait venir et le gourmandait en ces termes. « Mon ami, quand on offense son maître, on offense Dieu. Et quand on offense Dieu, il faut, pour obtenir pardon de l'offense, jeûner et faire l'aumône. C'est pourquoi, sur vos 10 sous quotidiens, j'en retiens 5 pour les donner aux pauvres à votre intention et pour l'expiation de vos péchés. » Nous avons dit comment Malherbe traitait les autres. Peut-être en avait-il le droit, ne s'épargnant pas lui-même. Souvent, il disait à Racan, « Voyez-vous, mon cher confrère, si nos vers vivent après nous, toute la gloire que nous pouvons espérer, c'est qu'on dira que nous avons été deux bons arrangeurs de syllabes. Mais on ajoutera, soyez-en sûrs, que nous avons été bien ridicules de passer notre vie à un exercice si peu utile au public et à nous, au lieu de l'employer à nous donner du bon temps ou à l'établissement de notre fortune. » Et, en effet, Malherbe, à tort ou à raison, ne faisait pas grand cas des sciences et particulièrement de celles qui ne servent qu'au plaisir ou à la volonté des sens. Au nombre de ces dernières, il mettait la poésie. Comme un jour un faiseur de vers se plaignait à lui qu'il n'y eût à attendre de récompense du roi que si on le servait dans la guerre ou dans la politique, « Eh, monsieur, lui répondit Malherbe, quand on fait ce sot métier de rimeur, il ne faut pas en attendre autre chose que son divertissement, et, à mon avis, le meilleur poète n'est pas plus utile à l'État qu'un bon joueur de quilles. » Il est vrai qu'il n'avait pas une grande considération pour les hommes en général. Un jour qu'il parlait de Caïn et d'Abel. « Parbleu, disait-il, ne voilà-t-il pas un beau début et une honnête race? Ils ne sont encore que 3 ou 4 au monde, et voici que déjà l'un tue l'autre. Dieu était en vérité bien bon de se donner tant de peine pour conserver les hommes. Après cela, ajouta-t-il en manière de correctif, il a fini par les noyer. Un jour, il alla avec Racan et M. Dumoustier au Chartreux afin d'y voir un certain père Chazeret qui y vivaient en odeur de sainteté. Mais on ne voulut pas leur permettre de parler au digne homme, qu'ils n'eussent dit chacun un pater. Le pater dit, le père vient et leur annonce qu'il n'a que le temps de s'excuser près d'eux, mais non celui de les entretenir. Alors, dit Malherbe, tout maussade de s'être dérangé pour rien, faites-moi rendre mon pater. Un matin, Racan entre dans son cabinet et le trouve occupé à aligner des sous. Il en mettait 12, puis au-dessus des 12 premiers, 12 autres, puis au-dessous des 12 autres, 6. Après quoi il recommençait 12, 12 et 6. « Que diable faites-vous là ? » demanda Racan. « Je fais le squelette d'une nouvelle mesure pour une ode, » dit l'autre. « Je ne vous comprends pas. Attendez et vous allez comprendre. » Alors ces sous-alignés, 12, 12 et 6, 12, 12 et 6, Malherbe prend la plume et écrit. Que de peine, amour, accompagne tes roses. Que d'une aveugle erreur tu laisses toute chose à la merci du sort. Quand tes prospérités à bon droit ton soupir, et qu'il est malaisé de vivre en ton empire sans désirer la mort. Puis, voyez, dit-il, les 12 sous ce sont les grands vers, et les 6 sous ce sont les petits. Son nom et son mérite avaient été révélés à Henri IV par un rapport qu'avait fait de lui le cardinal du Perron en 1601, c'est-à-dire lorsque le cardinal n'était encore qu'évêque d'Évreux. Voici à quelle occasion. Le roi demandait un jour au digne prélat s'il ne faisait plus de vers. « Sire, répondit celui-ci, depuis que votre majesté m'a fait l'honneur de m'occuper à ses affaires, j'ai absolument abandonné la poésie. D'ailleurs, il ne faut pas s'en mêler, aujourd'hui que s'en mêle un gentilhomme de Normandie nommé Malherbe. » Cet éloge avait donné à Henri IV le désir de s'attacher notre poète. Il en parlait souvent à Des Yvetot, précepteur du duc de Vendôme. Et comme Des Yvetot était de la même ville que Malherbe, il poussait Henri IV à le faire venir. Mais le roi, dont nous avons signalé la pingrerie, hésitait à l'appeler près de lui, de peur d'être chargé d'une nouvelle pension. Ce qui fut cause, dit Almandéréo, que Malherbe ne fit sa révérence au roi que 3 ou 4 ans après que le cardinal du Perron lui en eut parlé. Et encore ne fût-ce que par occasion. Malherbe était venu à Paris pour ses affaires particulières. Des Yvetot en avertit le roi, qui aussitôt l'envoya chercher. C'était en 1605, et comme le roi était prêt de partir pour le Limousin, Malherbe fit, sur ce départ, la pièce qui commence ainsi. Le roi, dont les bontés de mes larmes touchaient. Quant à son retour du Limousin, Henri IV reçut l'hommage de cette ode, il la trouva admirable et désira que Malherbe lui appartint. Mais par ladrerie, il commanda à M. de Bellegarde, premier gentilhomme de la chambre, de le garder en attendant qu'il l'eût mis sur l'état de ses pensionnaires. M. de Bellegarde, qui était aussi grand seigneur que le roi était pingre, lui donna 1000 livres d'appointements, sa table, un laquais et un cheval. « Pour moi, dit-il dans cette lettre, je ne dispute de mérite avec personne et crois que, de tous ceux à qui le roi fait du bien, il n'y en a pas un qui ne soit plus digne que moi. Mais si je n'ai autre avantage, pour le moins ai-je celui de n'être point venu à la cour demander si l'on avait affaire de moi, comme la plupart de ceux qui y font aujourd'hui le plus de bruit. Il y a, en ce mois où nous sommes, justement 20 ans que le feu roi m'envoya quérir par Des Yvetot, me commanda de me tenir près de lui et m'assura qu'il me ferait du bien. Je n'en nommerai pas de petits témoins, la reine-mère du roi, Madame la princesse de Conti, Madame de Guise, sa mère, Monsieur de Bellegarde et, généralement, tous ceux qui alors étaient ordinaires du cabinet savent cette vérité. Malherbe avait 30 ans quand il fit la fameuse ode « Ta douleur, Dupérier, sera donc éternelle ». On dit que c'est par une erreur typographique que ce beau vers « Et rose, elle a vécu ce que vivent les roses » vint ainsi et qu'il y avait sur la copie « Et Rosette a vécu ce que vivent les roses ». Nous croyons que ces accidents n'arrivent qu'aux hommes de génie. Comme Racan, Malherbe avait un défaut de prononciation. Aussi, quand on lui demandait d'où il était, avait-il l'habitude de répondre qu'il était de balbute en balbutie. C'était le plus mauvais récitateur du monde. Il gâtait les plus beaux vers en les récitant lui-même, outre qu'il s'arrêtait 5 ou 6 fois par strophe pour cracher. Ce qui faisait dire au chevalier de Mancini qu'il n'avait jamais vu d'homme plus humide et de poète plus sec. Aussi, à cause de sa crachoterie, Malherbe se mettait-il toujours à côté de la cheminée. Il en résulta qu'un jour, chez M. de Bellegarde, étant à sa place ordinaire, mais empêché de se chauffer par les chenets représentant 2 satyres, il prit les chenets et les porta, tout rougi, au milieu de la salle. « Eh bien, dit M. de Bellegarde, à qui donc en avez-vous, Malherbe ?»« À ces 2 gros B-là, qui se chauffent tout à leur aise, tandis que moi, je meurs de froid. » Un jour, il dit des vers à Racan, et après les avoir dits, lui demanda ce qu'il en pensait. « Par ma foi, répondit Racan, je serais embarrassé de le dire, vous en avez mangé la moitié. » « Mordieu, fit Malherbe tout en colère, si vous ajoutez un seul mot, je les mangerai tout à fait. Et, au résumé, j'en puis bien faire ce qu'il me plaira, puisqu'ils sont à moi. » Il avait traduit un psaume de David, mais, à ce qu'il paraît, il n'avait pas conservé le sens que lui avait donné le roi prophète. On le lui fit remarquer. « Eh bien, dit-il, après tout, suis-je donc le laquais du roi David ? J'ai trouvé qu'il parlait mal, et je l'ai fait parler mieux, voilà tout. » Il avait un frère nommé Éléazar Malherbe, avec lequel il était sans cesse en procès. « Quel scandale, lui dit un de ses amis, de voir des procès entre personnes si proches. Et avec qui voulez-vous donc que j'en aie des procès ? Avec les Turcs ou avec les Moscovites, qui sont à 1000 lieues de moi et dont je n'ai rien à réclamer ?» Malherbe était toujours assez mal logé, choisissant de mauvaises chambres garnies de 5 ou 6 chaises de paille. Or, comme il était fort visité par tous ceux qui aimaient les belles lettres, quand les 5 ou 6 chaises étaient occupées par les visiteurs, il fermait sa porte en dedans, et si l'on venait à heurter, « Attendez un instant sur le carré que quelqu'un sorte d'ici, disait-il, il n'y a plus de chaises. » Voici une de ces brutalités que nous allions oublier. Un soir qu'il se retirait, après souper, de chez M. de Bellegarde, avec un valet qui, pour éclairer son chemin, lui portait le flambeau, il rencontra un gentilhomme, parent de M. de Bellegarde, et nommé M. de Saint-Paul. Celui-ci l'arrêta et commença à l'entretenir de quelques nouvelles de peu d'importance. Mais Malherbe l'interrompant, « Adieu, monsieur, adieu, lui dit-il, vous me faites brûler pour 5 sous de cire, et ce que vous me racontez ne vaut pas un carolus. » M. François de Harlay, archevêque de Rouen, l'avait prié à dîner, le prévenant que c'était dans l'intention de le mener ensuite au sermon qu'il devait faire, lui, M. de Harlay, dans une église voisine de son hôtel. Le dîner achevé, Malherbe, qui avait mangé tant qu'il avait pu, s'endormit sur une chaise. Et comme l'archevêque le voulait réveiller pour le conduire au sermon, « Oh ! Dit le poète en rouvrant un œil, « dispensez-moi, je vous prie, monseigneur, je dormirai bien sans cela. » Quand il rencontrait des pauvres et que ceux-ci lui disaient, afin de l'exciter à la générosité, qu'il prierait Dieu pour lui, « Oh ! Répondait Malherbe en secouant la tête, « d'après l'état où je vous vois, je ne pense pas que vous ayez grand crédit sur lui. J'aimerais mieux que M. de Luynes ou M. le surintendant me fisse la promesse que vous me faites. » Un jour de grande gelée, au lieu d'une chemisette qu'il mettait ordinairement, il en mit 3. Puis, en outre, étendant sur sa fenêtre 3 ou 4 aunes de toile verte, « M'est avis, dit-il, que le froid ne me frappe si fort que parce qu'il s'imagine que je n'ai point de quoi me faire des chemisettes. Ah, mais je lui montrerai bien qu'il se trompe, moi !» Le froid continuant malgré cela, Malherbe commença à faire pour les bas ce qu'il avait fait pour les chemisettes, c'est-à-dire qu'il en mit 2, 3, 4, 5 paires. Enfin, il en mit tant que, pour n'en point passer plus à une jambe qu'à l'autre, il avait une écuelle à sa droite et une écuelle à sa gauche, et qu'à mesure qu'il passait un bas à la jambe gauche ou à la jambe droite, il laissait tomber un jeton dans l'écuelle de droite ou dans l'écuelle de gauche. Racan, pour lui épargner cette peine, lui conseilla de les marquer d'une lettre de couleur et de les chausser alphabétiquement. Malherbe suivit le conseil et s'en trouva bien. rencontrant Racan quelques jours après et passant rapidement à côté de lui. « Eh, dit-il, j'en ai jusqu'à la lettre L. » Cela lui en faisait 11 paires. Un jour, chez Madame Delorge, il montra 14 chemises et chemisettes. « Bah, disait-il, Dieu n'a fait le froid que pour les pauvres et les sots. Mais ceux qui ont le moyen de se bien vêtir et bien chauffer ne doivent jamais souffrir du froid. » Étant une fois tombé assez gravement malade, il envoya chercher l'oculiste Thévenin, qui était un monsieur de Bellegarde. Celui-ci, le trouvant en danger, lui proposa d'appeler un de ses confrères nommé Robien. « Oh non, pas cet homme-là, dit Malherbe. Robien est un nom d'avocat et je ne puis pas souffrir les avocats. » « Eh bien, reprit Thévenin, voulez-vous monsieur Guenebaud ?»« Guenebaud, un nom de chien courant. Toto, Guenebaud ? Non, ma foi, non. »« Voulez-vous monsieur Dacier ?» Un gaillard plus dur que le fer, jamais. Eh bien, voyons, il y a encore monsieur Provin. Provin, soit, je n'ai rien contre celui-là. Et il envoya quérir. Un jour qu'il donnait à dîner à 6 de ses amis, il leur servit à chacun un chapon bouilli. Pourquoi 7 chapons ? Demanda un des convives. Parce que, dit Malherbe, vous aimant tous également, « je ne veux pas servir à l'un l'aile, à l'autre la cuisse. » Monsieur de Bellegarde fit des couplets qui disaient au troisième vers « cela se peut facilement » et au sixième « cela ne se peut nullement. » Malherbe les avait retouchés et l'on disait généralement qu'ils étaient de lui. Un poète nommé Berthelot en fit une parodie. Voici 2 strophes de cette parodie. Dire partout qu'il est habile et reprendre Homère et Virgile, cela se peut facilement. Mais bien qu'il soit d'avis contraire, de croire qu'il puisse mieux faire, cela ne se peut nullement. Être 6 ans à faire une ode et donner des lois à la mode, cela se peut facilement. Mais de nous charmer les oreilles par la merveille des merveilles, cela ne se peut nullement. Malherbe furieux provoqua Berthelot. Et celui-ci ayant refusé de répondre à l'appel, il le fit bâtonner par un gentilhomme de camp nommé La Boulardière. Malherbe était non moins brutal en amour qu'en poésie. Un jour, il raconta à Madame de Rambouillet qu'ayant eu soupçon que Madame la Vicomtesse d'Olchy, sa maîtresse, le trompait, il était entré dans sa chambre et l'ayant trouvé seul sur son lit, il lui avait pris les 2 mains dans une des siennes et l'avait souffletée jusqu'à ce qu'elle criât au secours. Puis, comme il avait entendu que l'on venait à ses cris, il s'était assis près du lit, ayant l'air de causer avec elle de la façon la plus innocente du monde. De sorte que la personne qui vint ne voulut jamais croire que la vicomtesse avait été battue, quoiqu'elle eût les joues rouges et les yeux pleins de larmes. Malherbe fut aussi amoureux de Madame de Rambouillet, mais platoniquement. Voici les vers qu'il fit pour elle. Ils sont d'une belle forme et d'une facture serrée. Cette belle bergère, à qui les destinées semblaient avoir gardé mes dernières années, eut en perfection tous les rares trésors qui partent un esprit et font aimer un corps. Ce ne furent qu'attraits, ce ne furent que charmes, sitôt que je la vis et lui rendis les armes. Un objet si puissant ébranla ma raison. Je voulus être sien, j'entrai dans sa prison et de tout mon pouvoir essayai de lui plaire tant que ma servitude espéra du salaire. Mais comme j'aperçus l'infaillible danger où, si je poursuivais, je m'allais engager, le soin de mon salut m'ôta cette pensée. J'eus honte de brûler pour une âme glacée et, sans me travailler à lui faire pitié, restreignis mon amour aux formes d'amitié. Le fils de notre poète ayant été trouvé assassiné à Aix, où il occupait une place de conseiller, Malherbe, pour demander justice au roi qui était au siège de La Rochelle, fit un voyage pendant lequel il gagna la maladie dont il mourut. Il n'était point très croyant à une autre vie, et lorsqu'on lui parlait de l'enfer et du paradis, il se contentait de dire « J'ai vécu comme les autres, je veux mourir comme les autres et aller où vont les autres. » On le pressa de se confesser. Mais il répondit qu'étant accoutumé de ne se confesser qu'à Pâques, il désirait ne point changer ses habitudes. Au reste, il allait à la messe toutes les fêtes et tous les dimanches et parlait toujours avec respect de Dieu et des choses saintes. Enfin, Ivrande l'ayant décidé à se confesser, le moribond envoya chercher le vicaire de Saint-Germain-l'Auxerrois, qui non seulement le confessa, en effet, mais l'assista même jusqu'à sa mort. Une heure avant d'expirer, et comme il était tombé dans une espèce d'assoupissement dont on croyait qu'il ne sortirait plus, il se réveilla tout à coup pour reprendre son hôtesse d'une faute de français qu'elle venait de commettre. Son confesseur lui reprochant alors doucement de songer à des choses qui lui faisaient oublier Dieu, « Eh, mon père, dit-il, n'est-ce pas un bien grand péché aussi que d'oublier la langue française ?» Après quoi, étant retombé dans son assoupissement, il râla encore une heure environ, puis rendit le dernier soupir. Nous avons dit comment Sa Majesté Louis XIII avait consommé son mariage à Saint-Germain au moment où la reine-mère s'échappa de Blois. Nous avons dit comment s'était terminée cette petite guerre civile, dont un des derniers épisodes fut la mort du marquis de Richelieu, frère aîné de l'évêque de Luçon, tué par Thémines. Nous avons cité les trois principaux articles du traité de paix, ou plutôt les trois articles qui nous intéressent. M. d'Épernon rentrait en grâce, l'archevêque de Toulouse et l'évêque de Luçon recevaient chacun un chapeau de cardinal, Madame de Vignereau de Pontcourlet, nièce de Richelieu, dotée de 100 000 livres par la reine-mère, épousait Combalet, neveu de Luynes. Nous avons dit les étranges amours du roi Louis XIII avec ses maîtresses, et comment, ayant dit à Madame de Luynes, devenue Madame de Chevreuse, qu'il n'aimait ses maîtresses que jusqu'à la ceinture, celle-ci lui répondit « Eh bien, sire, vos maîtresses se scindront comme Gros Guillaume au milieu des cuisses. » Enfin, nous avons raconté ce que Guy Patin, médecin du cardinal, avait dit de lui après sa mort. Le cardinal, 2 ans avant de mourir, avait encore 3 maîtresses. La première était sa nièce, Madame de Combalet. La seconde était la Picarde, c'est-à-dire la femme du maréchal de Chaulnes. Et la troisième, dit toujours Guy Patin, une certaine belle-fille parisienne nommée Marion Delorme. Marion Delorme est une célébrité parmi les courtisanes. On a fait 100 contes sur elle. On l'a fait vivre près d'un siècle et demi. Enfin, elle a servi de prétexte à Victor Hugo pour faire un des plus beaux drames de la scène française. Disons ce qu'était Marion Delorme. Nous la retrouverons mêlée à l'histoire du pauvre Saint-Marc. Marion Delorme était née à Chalon-sur-Marne vers 1609 ou 1610. Elle avait donc, à l'époque où nous sommes arrivés, 18 ou 19 ans. Elle était presque de condition et riche pour l'époque. Elle eut eu 25 000 écus en mariage, mais elle préféra rester fille, si toutefois on peut appeler rester fille le parti qu'elle adopta. C'était une très belle personne, de grande mine, faisant tout avec grâce. Médiocre d'esprit, mais chantant bien et jouant admirablement du théorbe. Magnifique, dépensière, lascive. Elle avait eu quantité d'amants, mais prétendait n'en avoir aimé que 7. C'est bien peu, comme on voit. Desbarreaux avait été le premier. Puis vinrent successivement le marquis de Rouville, beau-frère de Bussy-Rabutin, Miossens, à qui elle avait écrit la première, et qui, pour elle, fut infidèle à Madame de Rohan, Arnaud, Saint-Marc, Monsieur de Châtillon et Monsieur de Brissac. On voit qu'elle ne comptait pas le cardinal au nombre de ceux qu'elle avait aimés. Le cardinal l'avait envoyé chercher sur sa réputation de beauté et elle était venue au palais déguisée en page. Lui, de son côté, était déguisé en cavalier. Il portait un habit de satin gris de lin, passementé d'or et d'argent. Il était beauté et avait des plumes sur son chapeau. Il lui fit, après l'entrevue, donner 100 pistoles par son valet de chambre de Bournay. Marion les lui jeta au nez. Puis, rentrant, « Monseigneur, dit-elle, ce n'est pas vous, probablement, qui m'avez fait l'insulte de m'offrir de l'argent. Regardez autour de vous et voyez si vous n'avez quelque chose de mieux que des pistoles à me donner en souvenir de notre entrevue. » Le cardinal regarda autour de lui, vit un jonc qui appartenait à Madame de Combalet, le prit et le donna à Marion en disant « Tenez, ma belle-fille, voici une canne qui vient de ma nièce. » « À la bonne heure, dit Marion Delorme, ceci est un trophée, je le prends et je le garde. » Le jonc était très beau, richement monté, et valait une soixantaine de pistoles. Marion le portait habituellement, racontant l'anecdote à qui voulait l'entendre. Elle fut accusée d'avoir servi d'espionne au cardinal. Si cela fut, c'était à son insu, ou comme contrainte et forcée. Rien n'était moins dans le caractère de l'honnête courtisane que de pareilles trahisons. Jamais Marion ne recevait d'argent, des cadeaux seulement. Démery, trésorier, lui avait donné un collier de diamants qui lui était de temps en temps d'une grande ressource. Dans ses besoins, elle le mettait en gage, et ses besoins étaient fréquents. Elle disait elle-même qu'elle n'avait jamais porté les mêmes gants plus de 3 heures. Le président de Chevry était son pis-aller quand elle n'avait personne. Elle promettait, comme Ninon, dont elle était quelque peu jalouse, d'être belle jusqu'à 80 ans. Mais, à l'âge de 39, ayant pris une forte dose d'antimoine dans le but de se faire avorter, elle s'empoisonna. Sa maladie dura 3 jours. Pendant ces 3 jours, la pauvre Madeleine se confessa 10 ou 12 fois. Elle trouvait toujours quelque chose de nouveau à dire et renvoyait chercher le prêtre. Elle fut exposée, morte sur son lit pendant 24 heures, ayant au front une couronne de fleurs d'oranger mêlées à des roses blanches, ce qui était un peu risqué. Elle avait un frère et 3 sœurs. Son frère, qui se nommait Baille, du nom d'une terre de famille, était en prison pour dette. Marion alla solliciter le président de même, qui la trouva si charmante que non seulement il lui accorda sa demande, mais encore la reconduisit jusqu'à la porte de la rue, disant « Eh, mademoiselle, se peut-il que j'aie vécu jusqu'à cette heure sans vous avoir connue ?» Ses 3 sœurs étaient belles et bien faites. L'aînée, qui n'était point renommée pour son esprit, avait l'habitude de dire « Nous sommes pauvres, mais nous avons l'honneur. » L'honneur d'être les sœurs de Marion de Lorme, probablement. Et elle avait raison, la pauvre fille, car comme Marion était l'illustration et le soutien de la famille, elle morte, il n'y eut plus ni frère ni sœur. L'excellent cœur défrayait toute la famille. Sans doute n'avait-elle pas rendu au cardinal Mazarin les services qu'on l'accusait de rendre au cardinal de Richelieu, car au moment où elle mourut, elle allait être arrêtée comme faisant partie de la cabale des princes de Condé et de Conti. Ce fut sans doute aussi ce qui donna lieu à cette singulière version qu'elle n'était pas morte, mais qu'elle avait fait courir le bruit de sa mort, et qu'après avoir regardé passer son convoi d'une fenêtre, elle était partie pour l'Angleterre. À dater de ce moment, commence pour la pauvre trépassée une suite d'aventures dues à l'imagination de ses biographes. Selon quelques-uns, elle aurait épousé un lord. Devenue veuve, elle serait rentrée en France avec 100 000 francs. Attaquée sur la route par une bande de voleurs, elle aurait été épousée par leur chef. Veuve une seconde fois, après 4 ans de cohabitation avec ce second mari, elle aurait épousé en 3e noce un procureur fiscal nommé Lebrun. Puis, ayant perdu ce nouvel époux, après 22 ans, elle serait venue habiter le Marais, où elle serait morte sous Louis XV en 1741, à l'âge de 133 ans. Tout cela, comme on le comprend bien, est une fable. Talmand d'Héréau l'a détruit par les détails minutieux qu'il donne sur ses derniers moments, et nous trouvons dans la Gazette historique de Loret son extrait mortuaire en 4 vers. Voici ces 4 vers, publiés à la date du 30 juin 1650. La pauvre Marion de Lorme, de si rare et plaisante forme, a laissé ravir au tombeau son corps si charmant et si beau. Quant à Madame de Chaulnes, ses relations avec le cardinal étaient avérées. Au lieu de les nier comme Madame de Combalet ou de les avouer simplement comme Marion de Lorme, la maréchale s'en vantait. La chose pensa mal tourner pour elle. Une nuit qu'elle revenait de Saint-Denis, son carrosse fut arrêté par 6 hommes à cheval, déguisés en officiers de la marine, qui essayèrent de la défigurer en lui cassant 2 bouteilles d'encre sur le visage. Le procédé est simple. On casse les bouteilles sur le visage de la personne que l'on veut défigurer. Le verre coupe, l'encre entre dans la coupure et la trace de la cicatrice reste éternellement. Aujourd'hui, on a encore simplifié la chose, on jette du vitriol au visage. Par bonheur, Madame de Chaulnes se défendit en étendant les 2 mains. Les bouteilles se brisèrent au panneau du carrosse et ses vêtements seuls furent perdus. Le cardinal, pour la dédommager, sinon du mal, du moins de la peur, lui donna aux portes d'Amiens une abbaye de 25 000 livres de rente. Maintenant, suivant le cardinal, dans des amours plus ambitieuses et qui lui réussirent moins bien que celles que nous venons de raconter. La reine Anne d'Autriche, délaissée par son mari, s'était à peine aperçue d'une chose dont les femmes s'aperçoivent toujours. C'est que le cardinal de Richelieu poussait auprès d'elle l'étiquette jusqu'à la galanterie, le respect jusqu'à l'adoration. Un soir, elle reçut une lettre du cardinal qui lui demandait une entrevue et la priait de faire de cette entrevue un tête-à-tête, le but de son éminence étant de parler avec sa majesté de certaines affaires d'État qui demandaient le plus grand mystère. Le roi était malade et en froid avec la reine à cause des familiarités de M. le duc d'Anjou. Nous avons déjà parlé des familiarités de Mgr Gaston d'Orléans et nous en parlerons encore. La reine accorda le rendez-vous. Seulement, elle plaça dans l'embrasure d'une fenêtre une vieille femme de chambre espagnole nommée Doña Estefania, qui l'avait suivie de Madrid à Paris et qui parlait à peine le français. Le cardinal était en costume de cavalier. Dans ces sortes d'aventures, il tenait à dissimuler complètement l'homme d'église. Oubliant sa robe, il voulait qu'on l'oubliât. Au reste, comme la plupart des prélats du temps qui, au besoin, portaient la cuirasse, il portait la moustache et la royale. Seulement, la royale ne portait pas encore ce nom aristocratique. Nous trouverons moyen, en entrant dans le cabinet de Louis XIII, pendant un de ces moments d'ennui qui lui étaient si pesants et si familiers, de dire comment prit son nom ce petit bouquet de barbe qui, après avoir été rasé sous Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, la République et l'Empire, reparut avec la Restauration. Richelieu entra et trouva la reine assise et souriante. La reine pouvait avoir alors 23 ou 24 ans. C'est dire qu'elle était dans toute la fleur de cette beauté si tristement négligée par son mari. Le cardinal était un diplomate assez habile pour envelopper sa proposition, si étrange qu'elle fût, de dilemmes assez pressants pour qu'Anne d'Autriche l'écoutât jusqu'au bout. Il prit prétexte de la mauvaise santé du roi, de la maladie dont il était particulièrement atteint à cette heure, de sa crainte, comme fidèle sujet de la reine et ministre d'un grand état, que cette maladie n'empirât. Il fit envisager à la reine la position précaire où elle se trouverait si, le roi venant à mourir, elle restait veuve sans enfant. La couronne alors passait à M. d'Anjou. Elle avait pour ennemi mortel la reine-mère Marie de Médicis. Il est vrai qu'elle avait pour ami le petit duc d'Anjou. Mais qu'était-ce que la protection d'un roi de 15 ans contre la persécution d'une reine-mère de 49 ans? La reine, en voyant l'abîme où elle était près de tomber, s'effraya. « Mais, s'écria-t-elle, vous me restez, vous, monsieur le cardinal, vous êtes mon ami ?»« Sans doute, madame, répondit celui-ci, je vous resterai, ou plutôt, je vous resterai si je ne devais pas être entraîné moi-même dans la catastrophe. Mais monseigneur Gaston me hait, mais la reine-mère ne me pardonnera pas les marques de sympathie que je vous ai données. Il en résulte que, si le roi meurt sans enfant, nous sommes perdus tous deux. » On me relègue dans mon évêché de Luçon et l'on vous renvoie en Espagne. C'est un triste résultat, n'est-ce pas, pour deux cœurs qui avaient rêvé la régence. » La reine plia la tête. « La destinée des rois, murmura-t-elle, comme celle des simples particuliers, est aux mains du Seigneur. » « Oui, répondit Richelieu, et voilà pourquoi Dieu a dit à sa créature faible ou forte, humble ou élevée, « Aide-toi et Dieu t'aidera. » La reine jeta sur le cardinal un de ces regards clairs et profonds qui sondent les cœurs. Mais elle eut beau regarder, elle ne vit rien dans cette âme pleine de ténèbres. « Je ne vous comprends pas, » dit-elle. « Avez-vous quelque désir de me comprendre, madame ?» demanda le cardinal. « Oui, car la situation est grave. »« Ce que j'ai à dire est difficile. »« Dites à demi-mot. Votre majesté me permet-elle de parler ?» « J'écoute votre éminence !» Eh bien, tout cet avenir sombre et sinistre se change en un avenir rayonnant si, au moment de la mort du roi, on peut annoncer à la France que le roi, en mourant, laisse un héritier de la couronne.
« Mais, dit la reine en rougissant, je croyais que vous aviez pu deviner que, avec le roi, c'était sinon impossible, du moins peu probable. »
« C'est justement parce que la faute est au roi, dit le cardinal, que la faute est réparable. »«
Ah, ah !» fit la fière princesse espagnole.
« Vous comprenez, n'est-ce pas ?»«
Je crois comprendre, du moins, ces 14 ans de royauté que vous m'offrez en échange de quelques nuits d'adultère. »
« C'est toute une vie de dévouement et d'amour que je mets à vos pieds. » Le Richelieu de 1624 n'était point ce qu'il fut 10 ans plus tard, c'est-à-dire l'implacable cardinal, l'inflexible ministre, l'homme au génie sanglant. Ou s'il l'était, personne ne le voyait encore sous cet aspect, pas plus Anne d'Autriche que les autres. Elle ne vit donc dans cette proposition, où il y avait autant de politique que d'amour, elle ne vit donc, disons-nous, qu'une suprême insolence. Et voulant savoir jusqu'où la pousserait celui qui lui faisait cette étrange proposition.
« Monsieur, dit-elle, la demande est inusitée et vaut, vous l'avouerez, la peine que l'on y réfléchisse. Laissez-moi pour me consulter la nuit et la journée de demain. »
« Et demain, demanda le cardinal, j'aurai de nouveau l'honneur de mettre mes hommages aux pieds de votre majesté. »
« Demain, soit, répondit la reine, j'attendrai votre éminence. »
Le cardinal se releva, transporté de joie, après avoir demandé et obtenu la permission de baiser les mains à la reine. À peine la portière fut-elle retombée derrière le cardinal, qu'Anne d'Autriche fit prévenir sa bonne amie Madame de Chevreuse qu'elle voulait lui parler. Madame de Chevreuse accourut. Elle avait depuis longtemps remarqué cet amour du cardinal pour la reine. Bien souvent elle en avait parlé à Anne d'Autriche. Bien souvent, les deux jeunes femmes en avaient ri. Comme tout le monde, elle ne voyait dans M. de Richelieu que le pauvre petit évêque de Luçon. Alors, on arrêta un projet digne de ces deux folles têtes et qui devait à tout jamais guérir le cardinal de son amour pour la reine. Rendez-vous, on se le rappelle, avait été pris pour le lendemain soir. Le lendemain donc, lorsque tout le monde fut retiré, le cardinal, profitant de la permission reçue, se présenta chez la reine. Empruntons à un auteur contemporain qui désire garder l'anonymat le récit de cette scène. La reine accueillit parfaitement le cardinal, mais seulement parut émettre des doutes sur la réalité de l'amour dont son éminence lui avait parlé la veille. Alors le cardinal appela à son aide les serments les plus saints et jura qu'il se sentait prêt à exécuter pour la reine les hauts faits que les chevaliers les plus renommés, les Roland, les Amadis, les Galaor, avaient exécutés autrefois pour la dame de leur pensée. Que, d'ailleurs, si Anne d'Autriche voulait le mettre à l'épreuve, elle acquérait bien vite la conviction qu'il ne disait que l'exacte vérité. Mais, au milieu de ses protestations, Anne d'Autriche l'interrompit.
« Voyez le beau mérite, dit-elle, de tenter des prouesses dont l'accomplissement donne la gloire. C'est ce que tous les hommes font par ambition, aussi bien que par amour. Mais ce que vous ne feriez pas, monsieur le cardinal, parce qu'il n'y a qu'un homme amoureux qui y consentit, ce serait de danser une sarabande devant moi. »
« Madame, répondit le cardinal, je suis aussi bien cavalier et homme de guerre comme d'église, et mon éducation, Dieu merci, a été celle d'un gentilhomme. Je ne vois donc pas ce qui pourrait m'empêcher de danser devant vous, si tel était mon bon plaisir, et que vous promissiez de me récompenser de cette complaisance. »
« Mais vous ne m'avez pas laissé achever, dit la reine. Je prétendais que votre éminence ne danserait pas devant moi avec un costume de bouffon espagnol. »
« Pourquoi pas ? » dit le cardinal. « La danse étant en elle-même une chose fort bouffonne, je ne vois pas qui empêcherait d'assortir le costume à l'action. »«
Comment ? » reprit Anne d'Autriche. « Vous danseriez une sarabande devant moi, vêtue en bouffon, avec des sonnettes aux jambes et des castagnettes aux mains ?»«
Oui, si cela devait se passer devant vous seul, et, comme je vous l'ai dit, que j'eusse promesse d'une récompense. »
« Devant moi seul, c'est impossible, dit la reine. Il faut bien un musicien pour marquer la mesure. »
« Alors prenez Beaucamp, mon joueur de violon, dit le cardinal. C'est un garçon discret et dont je vous réponds. »
« Ah, si vous faites cela, s'écria la reine, je serai la première à avouer que jamais amour n'égala le vôtre. » « Eh bien, madame, dit le cardinal, vous serez satisfaite. Demain, à la même heure, vous pouvez m'attendre. » La reine donna sa main à baiser au cardinal qui se retira ce jour-là, plus joyeux encore que la veille. La journée du lendemain se passa dans l'anxiété. La reine ne pouvait croire que le cardinal se décidât à faire une pareille folie. Mais madame de Chevreuse n'en fit pas doute un instant, disant savoir de bonne source que son éminence était amoureuse de la reine à en perdre la tête. À 10 heures, la reine était dans son cabinet. Madame de Chevreuse, Vautier et Béringhen étaient cachés derrière un paravent. La reine disait que le cardinal ne viendrait pas. Mais madame de Chevreuse soutenait que si, qu'il viendrait. Beaucamp entra. Il tenait son violon et annonça que son éminence le suivait. Environ 10 minutes après le musicien, un homme parut, enveloppé d'un grand manteau, qu'il rejeta aussitôt qu'il eut fermé la porte. C'était le cardinal lui-même, dans le costume exigé. Il avait des chausses et un pourpoint de velours vert, des sonnettes d'argent à ses jarretières et des castagnettes aux mains. Anne d'Autriche eut grand-peine à tenir son sérieux, en voyant l'homme qui gouvernait la France accoutré d'une si étrange façon. Cependant, elle prit cet empire sur elle, remercia le cardinal du geste le plus gracieux et l'invita à pousser l'abnégation jusqu'au bout. Soit que le cardinal fût véritablement assez amoureux pour faire une pareille folie, soit qu'ainsi qu'il avait laissé paraître, il eût des prétentions à la danse, il ne fit aucune opposition à sa demande et, au premier son de l'instrument de Beaucamp, se mit à exécuter les figures de la sarabande avec force coups de jambes et évolution de bras. Malheureusement, quant à la gravité même avec laquelle le cardinal procédait à la chose, ce spectacle atteignit à un grotesque si véhément que la reine ne put garder son sérieux et éclata de rire. Un rire bruyant et prolongé sembla lui répondre alors comme un écho. C'étaient les spectateurs cachés derrière le paravent qui faisaient chorus. Le cardinal s'aperçut alors que ce qu'il avait pris pour une faveur n'était qu'une mystification et sortit furieux. Aussitôt, madame de Chevreuse, Vautier et Béringhen firent irruption. Beaucamp lui-même suivit l'exemple et tous quatre avouèrent que, grâce à cette imagination de la reine, ils venaient d'assister à l'un des spectacles les plus réjouissants qui se pussent imaginer. Les pauvres insensés jouaient avec la colère du cardinal-duc. Il est vrai que cette colère leur était encore inconnue. Après la mort de Bouteville, de Montmorency, de Chalais et de Saint-Marc, ils n'eussent certes pas risqué la terrible plaisanterie. Et en effet, tandis qu'ils riaient ainsi, le cardinal rentrait chez lui, vouait à Anne d'Autriche et à madame de Chevreuse une haine éternelle, une haine de prêtre.